Salut.
Alors aujourd'hui, c'est un peu funky parce qu'on va appeler un collègue qui, pour une fois, n'est pas dans un bureau, mais dans la nature, très très haut d'ailleurs. Je sais même pas si on va réussir à le joindre. Il s'appelle Mathieu Fournier et Mathieu, je l'ai connu, c'était cet été, quand il faisait toute une série de reportages dans les Alpes suisses au sujet du réchauffement climatique. Il était journaliste au bureau fribourgeois, il couvrait l'actualité de sa région, des conférences de presse, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, Mathieu, en fait, c'est la figure de l'émission Passe-moi les jumelles. Il présente l'émission. Une émission dédiée aux beaux portraits, aux belles images, qu'adorent d'ailleurs les romans. Donc Mathieu, il a fait un vrai changement de voie. Et ça m'interpelle. Pourquoi est-ce que tout à coup, à peine 30 ans, on décide de quitter le très prisé département de l'information pour aller faire de la présentation d'une émission? Est-ce que c'est toujours du journalisme d'ailleurs? On essaie de l'appeler?
Allô?
Salut Mathieu. Alors, dis-moi, t'es où là?
Alors là, on est dans un des bivouacs les plus vertigineux de la série qu'on a prévu de faire dans Passe-moi les jumelles cette saison. On est au bivouac des Périades. C'est une niche pour chiens où il y a la place pour 3 personnes. On a dormi à 5 dedans. C'était une assez belle surprise. On arrivait hier soir et on était 3 et il y en avait déjà 2 qui étaient sur place. Et on est à 3441 mètres au-dessus de la mer de glace, en dessous des Grandes Jorasses.
Tu vois quoi ?
Alors maintenant, la porte est fermée pour qu'il n'y ait pas trop de bruit parce qu'il y a un vent monstrueux dehors. Donc si j'ouvre la porte, je vois en direction de la Suisse et je vois les aiguilles droites, les courtes, l'aiguille verte et les drues, donc des sommets complètement mythiques. Mais la porte fermée, pour l'instant, je vois du Sagex qui entoure une porte de bois. C'est l'isolation de 1935, vraiment, quoi. C'est très, très basique.
Donc on est assez loin, finalement, de ce que tu faisais il y a quelques mois à peine. Tu étais journaliste pour le bureau fribourgeois de la RTS, côté télévision. Tu couvrais des conférences de presse, des sujets assez locaux. Et là, je t'attrape et tu te retrouves à 3000 combien ?
3400 mètres.
Ouais. 3400 mètres en train de travailler pour une des émissions préférées d'ailleurs des Suisses romands qui s'appelle Passe-moi les jumelles. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu, entre ces deux moments ? À quel moment, tout à coup, il y a eu le changement de voie pour quitter le journalisme ? Mais ça, on interpellera peut-être après. Et devenir présentateur pour cette émission.
Quitter l'actu, en tout cas. Je ne sais pas si c'est quitter le journalisme, mais c'est quitter l'actu, ça c'est sûr. Ça s'est passé, je ne sais pas exactement comment moi-même, hein, je dois dire, parce que je n'ai pas toutes les clés, je n'étais pas dans les coulisses de ce qui a fait que je me retrouve là où je suis aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que j'ai écrit au mois de mai 2018 à Benoît Edmond en lui disant, ben voilà, à Fribourg, il y a un gars qui fait de la caméra, du parapente, de la montagne, qui se trouve être un employé de la RTS et qui serait ravi, 2 semaines par année, de s'extraire du rythme un peu haletant de l'actu pour aller faire des images en montagne. Et puis Benoît m'a dit « Ah ben, volontiers, on peut boire un café, mais bon, je pars à la retraite. Donc je retiens ton dossier, il est intéressant. » Et on a bu un café et il m'a dit lui-même dès le début « Je peux rien promettre de quoi que ce soit parce que je suis plus vraiment dans ce qui va être le futur de Passe-moi les jumelles. Je laisse un peu aller les prods actuels et puis dessiner eux-mêmes les contours de ce qui va suivre. » Et là-dessus, ben, pas vraiment de suite. L'été dernier, avec Jérôme Galichet, journaliste aujourd'hui à Mise au Point, on a fait une série qui a vraiment très bien marché à l'intérieur de la boîte et je crois aussi à l'extérieur, qui s'appelait « Vue des Alpes ». On a marché à travers les Alpes pour rejoindre différents villages, tout à pied, sans avoir réservé de logement. Et puis, on a fait ça vraiment de manière assez atypique, on va dire, dans le milieu des reportages qu'on faisait d'habitude. Et ça a vraiment, je pense, déclenché l'attention des producteurs de Passe-moi les jumelles ou de la responsable des magazines, je ne sais pas qui en fait, qui se sont dit à ce moment-là, ok, avec celui-ci, il y a peut-être quelque chose à faire en montagne pour Passe-moi les jumelles. Donc, ce que je sais, c'est que j'ai toujours aimé faire de la montagne, en fait. Depuis que je suis tout gamin, j'en ai fait, j'ai fait du ski, après du ski de rando, j'ai fait vraiment plein de choses. Et quand je suis arrivé à la RTS, le parapente, la montagne, le ski, c'est toutes des choses que j'ai pas dû abandonner complètement, mais que j'ai dû vraiment mettre sérieusement de côté. Et je m'étais toujours dit, si un jour je peux utiliser ces passions et ces hobbies pour mon métier, ben j'arriverai à combiner l'entier. Et ben Passe-moi les jumelles, c'était une des émissions qui, à mon avis, offrait le plus de possibilités à ce niveau-là, au niveau de l'image montagne et nature.
Mmh, mais t'es quand même relativement au début de ta carrière, hein, t'es un jeune journaliste, puis tout à coup t'as eu, alors d'habitude on fait des carrières, et puis tout à coup vers 40, 50 ans on se dit ah, faudrait changer, etc. Et toi t'as eu ce déclic avant, c'est lié véritablement à cette passion de la montagne, du parapente, où tu sens qu'il y a quelque chose dont tu pouvais peut-être plus ou tu voulais avancer différemment par rapport à ton métier ?
au départ, moi, j'ai juste écrit pour essayer de faire du magazine, pour un peu respirer, pour pouvoir quitter le rythme, comme je disais, un peu haletant de l'actu, où ben voilà, tu te lèves le matin, des fois, tu ne sais pas ce que tu vas faire et tu dois faire un sujet le soir même de 2 minutes où tu ne dois pas te planter, pas dire de bêtises, et puis informer les gens qui regardent le téléjournal correctement, en n'ayant rien su le matin des fois de la thématique. Donc c'était pas du tout la même chose que je visais en allant à Passement des Jumelles. C'était ben, beaucoup plus prendre le temps, marcher, faire de la très belle image et puis pas être dans un stress comme on a des fois à l'actu.
Ça t'a quand même... ce que tu nous décris là, c'est-à-dire tu te lèves, tu sais pas quel sujet tu fais, etc. Est-ce que ça te remplissait ou plus assez? Est-ce que c'était pas suffisant par rapport à tout ce que tu entends par le journalisme? Est-ce que tu voulais aussi aller plus loin que ça? Est-ce que c'était trop superficiel?
En fait, moi, au départ, j'ai choisi magazine. Je sortais de l'université où j'avais fait des études de français et d'histoire et j'avais l'impression que pour pouvoir développer un sujet, toucher les gens et leur permettre d'avancer dans une thématique, il fallait 26 minutes, il fallait avoir ce temps long. Un sujet TJ, je ne sais pas si on arrive vraiment à toucher la profondeur des choses. J'ai l'impression que ça va trop vite. Par contre, on peut avoir une image très forte qui va rester. Et donc j'ai choisi magazine et puis on m'a dit mais en fait vous avez un profil qui correspond beaucoup mieux à l'actu, allez vous former JRI. Je savais que si j'allais au magazine, on me formait pas à la caméra et la formation de la caméra à la RTS, c'est quelque chose qui au moment en tout cas où je l'ai fait, maintenant je sais pas qu'est-ce qu'elle vaut, mais au moment où je l'ai fait, c'était incroyable. Mais si on revient donc à ce côté est-ce que l'actu pouvait me combler ou bien au contraire ça laissait un petit côté de frustration à la fin d'une journée, il y avait clairement ça, il y a une partie quand on regarde un téléjournal, je sais pas si on se rappelle systématiquement un mois après ou une semaine après une scène ou 2 minutes de ce téléjournal. Alors que si on regarde un temps présent, j'ai l'impression que c'est impossible de pas ne se rappeler d'au moins une image ou d'une séquence d'un temps présent parce qu'on a passé 26 minutes, on s'est vraiment plongé dedans. Alors que dans un TJ, ben, on passe peut-être 29 minutes ou 30 minutes et on n'a pas toujours ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens et que je le vis. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être beaucoup plus réceptifs au téléjournal et moi à du temps présent. Donc j'avais toujours en tête, une fois que j'avais formé ma personne à la caméra et à l'actu, ben peut-être après 10 ans ou après 15 ans de journalisme d'actu pur, j'aurais pu passer du côté magazine pour avoir un temps un peu plus long. Et là, ça s'est fait beaucoup plus vite que ce que j'imaginais, en fait, simplement.
Et nous rejoignons en direct à Zurich Mathieu Fournier. Mathieu, vous avez suivi cette conférence de presse. Comment expliquer l'optimisme de ces prévisions ?
Il y a tout d'abord la lente reprise de la conjoncture européenne qui atténue l'effet négatif du franc fort. Mais si les prévisions sont optimistes...
Mathieu Fournier, encore journaliste à RTS Info.
Mathieu Fournier, vous avez suivi pour nous ces délibérations. L'UDC fribourgeoise désavouée presque à l'unanimité des juges du tribunal fédéral.
Oui, l'initiative comprenait 2 éléments. Elle visait à empêcher l'ouverture d'un centre islam et société et à empêcher la formation étatique d'imam.
Il est utilisé dans les parcs et jardins, il est employé là où vous êtes, Mathieu Fournier, sur les voies de chemin de fer en Suisse.
Oui, chaque année, 2 tonnes de glyphosate sont utilisées par les CFF, d'autres entreprises également, mais les CFF pour éviter d'avoir des voies ferrées qui ressemblent à ça.
Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir ce qui t'a donné envie de faire ce métier, en fait. Pourquoi tout à coup on devient journaliste et comment tu t'es heurté à des réalités qui sont positives ou moins. Au départ, il y avait quoi? C'était quoi l'idée?
Alors, au départ, je crois que c'était l'écriture. J'ai toujours beaucoup aimé écrire et puis quand j'avais 18 ans, j'ai décidé d'arrêter les études de médecine que je venais à peine de commencer, j'avais fait 1 semestre et je me suis dit mais c'est pas pour moi, j'étais à Fribourg et puis j'avais réussi à la raclette les examens du premier semestre parce que j'avais les acquis du collège, mais je me suis dit mais je veux pas faire médecin, je veux pas étudier la médecine, il faut que je trouve autre chose. Et là j'ai pris 9 mois pour réfléchir et je suis parti dans des études de français et d'histoire après avoir fait un stage d'un mois au Nouvelliste en Valais, je viens du Valais donc c'était le journal qui se présentait le mieux. Et puis, quand j'ai pu faire ces articles à la fin de ce mois de stage, ben, j'ai pu faire un vrai portrait d'un pianiste, un valaisan de l'extérieur, comme on les appelait, des valaisans qui ont quitté le canton, mais qui sont devenus assez connus. Puis, quand j'ai fini ce portrait, je me suis dit, mais ça, c'est vachement fort quand même. On peut écrire. Et puis, en même temps, on pouvait transmettre à pas mal de monde la passion et le personnage qui était intéressant à découvrir. Et là, je me suis dit, bon, le journalisme, ça pourrait être intéressant. Mais j'ai commencé l'Uni en me disant, je fais des études sans savoir le métier qui m'intéressera, mais plutôt en me disant, je fais des études de ce qui me plaît. et j'étudie ce qui me plaît. Et quand j'aurai fait ça, à la fin, j'aurai de façon des portes qui vont s'ouvrir dans la direction de ce que j'ai aimé faire, puisque j'étais dans cette direction-là. C'est peut-être un peu idéaliste, hein. Mais j'ai pas une passion d'enfance pour le journalisme. J'ai pas une passion qui m'est venue en lisant Tintin ou je ne sais quoi. C'est en étudiant que je me suis rendu compte que le journaliste pouvait, si il était bien fait, laisser des traces assez intéressantes pour les historiens. Donc là, en tant qu'historien, je me disais, mais c'est pas mal. Il y a pas mal de fois où on bosse sur du matériel que les journalistes ont fait, puis on voit combien ils se sont plantés ou combien ils ont vu loin, ou au contraire, combien des fois ils étaient droit dessus sans vraiment savoir que ce serait comme ça que ça se passerait. Donc il y avait ce côté-là qui m'intéressait. Et puis après, il y avait le côté communicant avec les gens et très interactif qui m'allait bien parce que je suis quelqu'un qui, je pense, est éminemment social aussi.
Mathieu, tu me disais tout à l'heure, j'ai quitté l'actu, mais j'ai pas quitté le journalisme. En quoi continues-tu, selon toi, faire du journalisme dans Passe-moi les jumelles ?
Ben alors, il y a plusieurs choses. Mais c'est très intéressant parce que quand j'ai commencé comme journaliste et que je regardais de temps en temps l'émission, je me disais effectivement, c'est pas vraiment du journalisme ce qu'ils font. Et des fois ça l'est, des fois ça l'est pas, je pense. Mais ça, c'est si on parle de l'émission et des reportages. Mais pour l'instant, le travail que j'ai à faire, je vais commencer à faire mes premiers reportages cet été. Mais le travail que j'ai à faire pour l'instant, c'est présenter. Là, j'ai pu choisir et proposer le thème des bivouacs. Déjà dans le choix, il y a un endroit où je me dis finalement, à la place de faire de l'analyse ou bien de tendre le micro à des gens qui vont nous dire qu'est-ce qu'il faut penser ou qu'est-ce qu'on peut penser de tel ou tel objet, là je suis un peu en train de fournir de la matière brute. Je documente un petit peu les Alpes parce qu'on filme l'itinéraire pour y aller, on filme le bivouac en soi. Donc là il y a une partie qui n'est peut-être pas du journalisme comme je le faisais avant, mais qui à mon avis a une part de transmission de l'information, même si elle est différente. Sur ces bivouacs, à chaque fois, on a choisi les lieux, bien sûr, en fonction de critères esthétiques, en fonction de critères de possibilité de pouvoir y accéder, mais aussi, souvent, disons pour en tout cas un bon tiers, on s'est dit, est-ce qu'ils ont une histoire un peu intéressante à raconter ? Et des fois, l'histoire, elle est fascinante. Enfin, je veux dire, là, on est dans un bivouac qui date de 1935, et si on gratte un tout petit peu derrière, on commence à comprendre qu'en fait, ce bivouac, il est ici parce que, les montagnards y passaient, mais beaucoup de cristalliers viennent dans la région, et on se dit, mais c'est quoi les cristalliers ? On commence à réfléchir, là, on fait des bonus web pour ajouter de l'info, et là, je pense que la part journalistique, elle est de nouveau présente. Mais c'est clair que dans les présentations qu'on a faites et qu'on a montées jusqu'à maintenant, souvent, la partie où je suis en train d'expliquer un petit truc sur le bivouac, sur la région, sur les dents du Midi qui avant s'appelaient les dents de Salan, ce genre de choses, qui sont pour moi la partie où j'ai dû creuser et puis faire un peu le travail du journaliste que je faisais avant, assez souvent, elle disparaît cette partie-là au montage parce qu'on n'a pas la place. Parce qu'il nous manque une minute ou deux minutes et puis on la sucre et c'est pas toujours moi qui suis au montage, c'est le réalisateur assistant de l'émission et lui, il va avoir un autre regard et puis il me dit souvent, c'est sympa, c'est un peu intéressant, mais ça prime pas. Donc le journaliste, il existe encore. Et en fait, il y a l'aspirant guide qui rentre dans le bivouac. Il y a un petit peu de bruit.
On entend bien le vent derrière toi.
Ouais, il y a du vent, il y a le Sagex qui craque, là ça souffle, c'est la tempête aujourd'hui dans la région. Il fait grand beau, mais il y a, je pense, des rafales à 30 ou 40 km de vent, quoi.
Tu nous as dit que tu avais une partie de tes études consacrée à l'histoire et ça revient régulièrement dans tout ce que tu nous racontes. Pourquoi c'est important de raconter l'histoire ?
L'histoire, c'est une passion depuis gamin, j'ai l'impression. En fait, tout le monde apprend à raconter des histoires depuis qu'on est gamin, depuis qu'on apprend à entendre des contes. Et puis, l'histoire au sens universitaire du terme, c'est pas tellement différent, en fait. C'est comment est-ce qu'on raconte une histoire de ce qui s'est passé. Et puis après, on a les sources, on va documenter tout ça. Mais on peut raconter les mêmes éléments sous tellement d'angles différents en ayant les mêmes sources que ça m'a assez vite passionné en fait. Et je me rends compte qu'on se raconte tous des histoires à soi-même et aux autres et que l'histoire, c'est des histoires qu'on se raconte aussi. Et ça, quand on commence à le décortiquer, à l'analyser un petit peu, je trouve ça vraiment très intéressant.
On te sent habité par ça, hein. Donc pourquoi ça t'attire tellement ? Qu'est-ce qui fait que l'histoire est racontée des histoires ? Parce que finalement, c'est quand même assez lié dans la manière dont tu en parles. Ouais, pourquoi ça t'habite comme ça ?
Je pense que d'abord j'aime le verbe, j'aime parler, j'aime entendre des bonnes histoires, j'aime les gens qui savent en raconter. L'histoire familiale aussi, elle peut avoir un rôle là-dedans. Mon grand-père était médecin au Congo belge dans les années 50. Juste ça m'a déjà assez souvent attiré, fait un petit peu voyager, je pense. Il y a une partie de ça aussi. C'est dur de savoir d'où ça vient. Mais je sais que déjà, ado aussi, j'adorais lire les stratégies grecques, des guerres grecques. J'adorais lire comment ça, la mythologie, toutes ces choses-là. Je sais pas, j'ai l'impression que, c'est des histoires ou des... Comment dire, on ne sait pas si c'est du roman ou bien pas. Quand on lit la mythologie, on ne sait pas très bien à comment ça fonctionnait, à quoi ça servait. Et puis en même temps, on en ressort avec à chaque fois plein de petits enseignements qui font voir le monde un peu différemment. Je crois que c'est ça. Ça nourrit la réflexion et la personne, je pense. Et je pense que l'histoire, elle est toujours intéressante que quand elle est encore actuelle. Si c'est l'histoire des cathares au 15e ou au 16e siècle, ben, elle existe encore et on en parle encore des fois parce que pour certaines personnes, dans certains endroits, elle est encore extrêmement actuelle. Alors que pour moi, ça l'était pas forcément peut-être quand je l'étudiais. Donc, ouais, je pense que quand ça résonne en nous et quand ça nous nourrit un petit peu dans notre personne ou notre façon de penser, que c'est intéressant.
Neige poudreuse, ciel bleu, moins 15 degrés. C'est le nouveau décor de Passe-moi les jumelles. Je viendrai vous en parler dans Altitude le 24 février prochain. J'aurai le plaisir de vous expliquer le nouveau concept. On va se rendre.
Mathieu Fournier, présentateur à Passe-moi les jumelles.
Les reportages, eux, ne changent pas, la qualité demeure. Je me réjouis d'en parler avec vous bientôt. Bonne journée.
Ce qu'on n'a pas totalement évoqué avec toi, Mathieu, c'est effectivement, tu l'as dit, hein, t'es devenu présentateur. Donc t'es devenu, par rapport au journaliste qui se met quand même en arrière, toi, t'es devant maintenant. Et t'es devenu une personne avec une petite notoriété montante. On sait que c'est une émission qui est très regardée. Ça, tu le gères comment, toi, le chevelu? Parce que t'as reçu, t'as reçu des remarques, le mal coiffé.
C'était la première réaction, voilà. C'est incroyable. Cette première réaction, après 5 minutes de la première émission, c'est quelqu'un qui écrit un mail au courrier des téléspectateurs et qui dit « C'est quoi ce chevelu mal coiffé ?» Pas de bonjour, pas de bonsoir, pas de « Je suis monsieur X ou Y ». Juste « C'est quoi ce chevelu mal coiffé ?» après 5 minutes d'émission. Donc non, en fait, ce qui est drôle, c'est que pour l'instant, les gens ne me reconnaissent pas. Peut-être parce que je suis chevelu et mal coiffé. Moi, j'ai plutôt l'impression que j'ai une physionomie un peu passe-partout et que du coup, on fait pas très attention à moi. Mais peut-être que dans un an, je corrigerai le tir et je dirai complètement différemment les choses. Mais il y a que 3 émissions qui sont diffusées au moment où on enregistre cette émission, donc je sais pas. Personnellement, pour l'instant en tout cas, j'ai l'impression de pas avoir dû changer quoi que ce soit dans mon existence et je le vis très bien pour ça.
Mais t'aimes être vu ? Tu aimerais être reconnu ? Enfin, c'est quelque chose qui t'attire en toute... Voilà, si c'est le cas, il n'y a aucune honte à le dire, mais c'est quelque chose aussi qui t'attire parce que tu as le sentiment que à travers toi, tu arrives à faire passer d'autres choses, etc. Ou tu es mal à l'aise avec ça?
Je pense pas que je suis mal à l'aise parce que sinon, je n'aurais pas accepté. Et puis, la seule chose que je crains, c'est de me perdre un petit peu. C'est de plus être moi-même et puis de commencer à porter un masque et d'être le Mathieu Fournier, présentateur de Passe-moi les jumelles. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas le cas. En tout cas, au quotidien, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Et c'est aussi, c'est un conseil que m'avait donné Benoît, que m'a donné aussi Thibaut, qui réalise l'émission. C'était de soit naturel, soit toi-même. Et quand je présente, j'ai aucun texte écrit, je sais ce que je dois dire à l'avance, plus ou moins, et on fait 14 prises, il y a à mon avis 6 textes différents sur 14 prises. Donc j'essaie de garder le plus possible ce naturel, et si je le garde à ce moment-là, je serai content des opportunités qu'offre ce poste. Parce qu'effectivement, d'un coup on a de la visibilité, d'un coup ce qu'on a à dire est relativement écouté, de ça je suis assez content. Après, en soi, comme je l'avais dit au départ, j'avais pas envie de présenter, je me suis jamais imaginé projeté dans un poste de présentateur. J'ai du respect pour les gens qui le font parce que c'est un métier vraiment à part entière, j'ai l'impression. Des gens qui présentent le téléjournal, qui font leurs interviews sur plateau en direct, qui ont que quelques minutes et qui le font très bien, je me sentirais pas capable de le faire. Et là, je crois que j'ai accepté, pour être très honnête, j'ai accepté de présenter Passe-moi les jumelles parce que ça me permettait d'accéder à une émission où j'allais faire des choses qui étaient complètement dingues et parce qu'ils avaient accepté le concept de présentation que j'avais proposé. Si j'avais dû présenter en me promenant autour d'un lac à plat et puis en disant des trucs sur les fleurs qui nous environnent et tout ça, ça m'aurait complètement saoulé et j'aurais jamais accepté. Là, j'ai accepté parce que j'ai dit, je vous propose de vous emmener dans les bivouacs, on va dans des endroits où très peu de gens vont. Tout le monde connaît les cabanes, mais les bivouacs, les gens y connaissent bien moins. Ça va être beau, ça va être sport et puis ça va être, si vous êtes d'accord, poétique, parce que j'aimerais bien écrire des textes un peu poétiques. Ils ont dit oui à ces 3 trucs-là, et puis là j'étais, c'est bingo, on y va.
Mathieu, on te sent vraiment très déterminé, tu parles vite, t'es droit dans tes bottes, en direct tu sais où tu vas. T'as jamais de doute sur ce changement de trajectoire, mais aussi tout ton parcours à toi, t'as jamais de doute?
J'en ai eu des gros des doutes. J'ai eu un énorme doute au moment où j'ai fini mon bachelor en français. J'avais postulé pour une école d'écriture à Bienne, il y a un institut littéraire là-bas, qui fait partie de l'école d'art de Berne. Et mon dossier avait été retenu, j'avais fait un entretien et tout ça. Puis quand j'ai pas été pris, j'étais effondré. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de mon existence? Ça va pas du tout. Je m'étais imaginé écrivain ou un peu artiste ou quelque chose comme ça. Et avant d'enregistrer la première émission, j'ai douté de pas mal de choses. J'ai douté de quand on a commencé à me mettre devant une caméra et que je devais dire bonsoir, bienvenue dans Passe-moi les jumelles. Mais pendant 3 jours, c'était une période de doute affreux. Je me sentais nul. J'étais là, mais ça marche pas du tout. C'est nul cette phrase d'abord, c'est quoi? Puis c'est au 3e jour que je me suis dit, ah, mais en fait, je pourrais citer les montagnes environnantes, ça me permettrait de me lancer un petit peu. Et puis à la fin, ça marchait. Mais les premières fois, on était à Zermatt. Là, on avait une semaine pour faire une émission. Mais toutes les premières fois où je parlais, il y avait tout le monde autour de moi qui était hyper gentil, qui disait, ouais, c'est super et tout ça. Puis 2 semaines après, il y a quand même le réalisateur qui m'avait dit 14 fois que c'était super, qui m'a dit, on va quand même juste refaire le début si t'es d'accord. Là, on est à Verbier, mais on le refait dans un paysage qui va très bien. Et puis c'était beaucoup mieux, il fallait ça. Il a vraiment fallu apprendre et se mettre dans le rythme et de trouver l'expression et les mots les plus naturels pour que ça avance. Dans le premier enregistrement de la première émission, la première fois où on me voit apparaître à l'image, mais je pense qu'on a 50 prises de ce moment-là. Donc je pense pas qu'on puisse dire que je doute de rien. J'essaye juste de faire au mieux, puis souvent ça se passe bien.
Mathieu Fournier, en haute montagne. Si tu veux en savoir plus sur Mathieu Fournier, son nouveau job, c'est dans Passe-moi les jumelles, tous les vendredis sur RTS1.